Le clergé diocésain au XIXe siècle demande d'abord que l'on définisse le XIXe siècle. Je l'ai défini sur une extension, puisque il va faire 130 ans. Il commence à la Révolution française et les guerres européennes qui l'accompagnent. Et les guerres européennes qui l'accompagnent ici, c'est aussi la Savoie. Et puis il s'achève ce XIXe siècle avec la Première Guerre mondiale. Nous en reparlerons également la prochaine fois, donc le 18 mai. Dans le précédent exposé, nous avons évoqué les prémices de cette Révolution française. Pour le clergé, la Révolution française est marquée par le serment à la Constitution civile du clergé, qui marque une rupture qui est mesurée par tous les acteurs de ce serment, que ce soit les curés, que ce soit les vicaires des paroisses, que ce soit les municipalités ou que ce soit les directoires des départements. Le premier semestre 1791 va contraindre des prêtres à approuver ou non le nouvel ordre du pays voulu par la Révolution française, alors que tous n'avaient pas forcément envie de faire un choix. Pie VI condamne la constitution civile du clergé en mars 1791, c'est-à-dire très tardivement par rapport au serment, puisque le serment est demandé dès le mois de janvier 1791. Donc la condamnation de Pie VI arrive évidemment à contre-temps par rapport à certains choix. À l'autre extrême du découpage chronologique, la mobilisation, on verra sous les nombreux aspects de cette mobilisation, on pourrait presque dire ces mobilisations, la Première Guerre mondiale ont fait basculer les hommes dans l'époque de la mécanisation et de la confrontation entre nations. Les tranchées ont aussi été l'occasion de découvrir des soldats venus de l'Empire colonial, alors que jusque-là, le clergé paroissial ne connaissait ces hommes de l'Empire colonial que par la mission, les expéditions, les expositions coloniales ou universelles. Autrement dit, les abbés Michel, Sauvebois, Abonnel sont connus jusque-là par le biais de l'ordo, en dehors du fait qu'ils ont été parfois au petit séminaire avec les prêtres du diocèse. Et l'ordo, donc l'annuaire diocésain, rappelle à tous les lieux où ils résident. La fin de la guerre, enfin, marque un tournant dans la politique de laïcisation qui regardait jusque-là comme un ennemi de l'intérieur le clergé de l'Église de France. Nous allons donc parcourir ces 130 ans en trois étapes. La première va couvrir l'époque révolutionnaire et la première partie du concordat de 1800 à 1802, en fait jusqu'à un concordat qui est signé en 1817 mais qui n'est jamais ratifié. Et donc en fait il y a un certain nombre de points qui sont appliqués, mais dont la reconstitution des diocèses, mais pas tous. La deuxième partie va montrer un clergé paroissial en place et en confiance avec les autorités. Et pour le clergé paroissial, l'autorité de référence, l'autorité civile de référence, c'est la mairie. C'est l'époque, cette époque-là, c'est celle de la Restauration, de la monarchie de Juillet à partir de 1830 et du Second Empire, la Seconde République et le Second Empire à partir de 1848 et 1851. Jusqu'en 1856, la guerre de Crimée, pour utiliser une région que nous connaissons géographiquement bien désormais en raison des événements dans cette région, et cette guerre de Crimée qui emporte quelques hommes dans les campagnes françaises et qui est popularisée par la comtesse de Ségur dans l'auberge de l'Ange Gardien ou dans le général d'Ourakine. Ou alors on peut prendre 1859, hein, ces mouvements comme frontières, qui est le début de la campagne d'Italie, qui va poser un énorme problème à l'Église de France. La troisième partie est la plus longue et correspond à la perte d'influence civile et sociale de l'Église, avec la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège en 1904 et la séparation de 1905 et 1906, qui en sont le paroxysme. La Première Guerre mondiale sera en ce sens réconciliatrice de cette période 1904-1906. L'union patriotique permet de ressouder la société, dit Jean-Marie Guyon, dans l'introduction au guide des sources ecclésiastiques sur la Première Guerre mondiale pour le sud-est de la France. Guide des sources co-rédigé avec Natacha Tourseillet, donc par les deux services d'archives diocésaines de Gap et de Marseille. Notre siècle commence donc avec la Révolution française et la Constitution civile du clergé. Vous avez là la rétractation de François-Thérèse Panisset, évêque constitutionnel du Mont-Blanc en Savoie. Cette constitution civile du clergé est adoptée en juillet 1790 par l'Assemblée constituante, ratifiée par le roi Louis XVI le 24 août 1790. Elle réorganise l'Église de France, qui est cantonnée au domaine religieux, l'État prenant à sa charge les œuvres comme les hôpitaux par exemple. Les revenus de ses œuvres, puisque l'Église tirait des revenus de ses œuvres, sont compensés par une pension versée par l'État. Les curés et évêques sont élus, les premiers par l'Assemblée administrative du district, qui regroupe plusieurs cantons, les seconds par l'Assemblée départementale. Ce sont donc des quasi-fonctionnaires, comme les juges de paix. Et c'est donc le sens du vote du 27 novembre 1790, quand l'Assemblée les soumet à un serment de fidélité qui doit être prêté début août, début 1791. Ce serment clarifie cette situation de quasi-fonctionnarisation. Le serment est refusé par 40 à 50% des prêtres qui y étaient soumis, ce qui signifie qu'il y a environ 60% qui, à un moment ou un autre, va accepter de prêter ce serment. Ce chiffre est à prendre comme une photographie avant une éventuelle rétractation, puisque le serment est prêté en janvier. Comme le pape condamne en mars, il y a des rétractations ensuite. Il faut donc tenir compte également des disparités régionales de statut, les curés et les vicaires prêtant le serment ou non en fonction de leur statut. Et après ce serment vient l'installation des curés intrus, appelés dans l'Ouest les Trutons. Ce sont donc des prêtres ordonnés avant la Révolution, nommés illégitimement aux yeux de l'Église catholique. Ils sont souvent d'esprit très gallican, élus par l'Assemblée du district, comme le prévoit la Constitution civile du clergé. 60 ans après les faits, le curé de Saint-Étienne d'Avançon, Saint-Étienne-le-Lot, relate l'arrivée en 1792. Donc le curé de Saint-Étienne l'écrit dans le livre de paroisse. Et il écrit que 1792 est une date de néfaste et affligeante mémoire. Et il relate l'arrivée du citoyen Jean Thouars, cette paroisse étant vacante par l'émigration du citoyen Bertrand, le curé prédécesseur. Le nouveau curé jure en public de veiller avec soin sur les fidèles qui lui sont confiés, d'être fidèle à la nation, de maintenir la liberté, l'égalité ou de mourir à son poste. Avant de quitter sa paroisse, le prêtre réfractaire manifeste parfois publiquement son opposition. C'est le cas de l'abbé Pierre-Marie Remaud à Chavagne-en-Paillée, un exemple dans le diocèse de Luçon. Dans une homélie en février 1791, il dit, je cite, « Je préfère l'autorité de l'Évangile, la tradition des pères de l'Église, des conciles œcuméniques, l'autorité toujours respectable des évêques de France, nos pères dans la foi. » Fin de citation. Notez que parmi les autorités ne figure pas le siège apostolique. C'est à la fois parce que nous sommes en terre gallicane et parce que Pie VI n'avait pas encore condamné la constitution civile du clergé. Avec Dominique Schex, l'acte de baptême, on va le retrouver dans quelques minutes, avec Dominique Schex, nous allons avoir sous les yeux tous les éléments pour comprendre que les raisonnements simplistes ne suffisent pas. L'abbé Dominique Schex, alors j'imagine que vous en avez tous entendu parler, est l'un des maîtres du botaniste Dominique Villard. Il est l'ami de Jean-Joseph Serres, qui est le chirurgien, qui est botaniste, qui est député à la Convention nationale. Il est surtout l'époux de la marraine du baptême que nous allons voir dans quelques instants. Dominique Schex va prêter le serment à la Constitution civile du clergé. Il va participer à l'élection de l'évêque constitutionnel Ignace de Cazeneuve. Puis il va rétracter son serment. L'enfant qui est baptisé Pierre Pochon est né le 27 novembre 1794 à la Roche des Arnauds. Et Dominique Schex écrit que cette naissance a lieu pendant le temps de l'expulsion des pasteurs, ce qui explique la célébration du baptême à la maison, puis la régularisation en 1795. Le registre de Dominique Schex ne commence qu'en 1795. C'est l'époque où la foi contrainte s'entoura de mystères, ont pris des allures de conspirateurs pour recourir au sacrement, pour reprendre les termes de Marc Bouloiseau dans la République jacobine. Du lieu de ma retraite, alors qu'il est emprisonné à la Conciergerie à Paris, François-Thérèse Panissé, évêque constitutionnel du Mont-Blanc, département savoyard français, grosso modo jusqu'à la Restauration, écrit une déclaration, une rétractation qui sont publiées. L'éditeur ne dit pas qui il est. Panissé, donc voilà Dominique Schex, il est ici, Jean-Joseph Serres, député à la Convention nationale, époux de la marraine, et donc Pierre Pochon, nous sommes ici à la Roche des Arnauds. Le baptême a lieu un an après la naissance de l'enfant. François-Thérèse Panissé, qui est l'évêque constitutionnel du Mont-Blanc et qui rédige une rétractation de son serment. Panissé écrit « M'associant aux impies factieux qui bouleversaient l'Église et l'État, je prêtais le serment prescrit. » Il est donc élu sur un siège nouvellement et légitimement créé par le nouveau régime. Revenant sur ce passé, donc, Panissé publie cette profession de foi « Je crois et je professe toutes les vérités enseignées par l'Église catholique et romaine. » Il est donc emprisonné à la Conciergerie à ce moment-là. L'un de ses correspondants et co-consécrateur est l'abbé Raymond, devenu évêque constitutionnel de l'Isère à partir de 1792, après avoir été curé congruiste, c'est-à-dire touchant la portion congrue, ce revenu juste suffisant dont nous avons parlé la dernière fois. Alors si nous suivons Stéphane Babet dans « La haine de Dieu », un livre paru en 2011, le serment est le signe que la République souhaite être reconnue. Alors, il faut cependant faire attention à la chronologie. En janvier 1791, Louis XVI règne encore. Babet écrit également, page 69, « Les biens de l'Église feront eux aussi l'objet d'une vaste bataille, ce qui causera la destruction de bon nombre d'entre eux un peu partout dans le pays. » Et là encore, il faut relativiser ces problèmes de destruction d'Église à la Révolution, qui existent, c'est exact. En même temps, il y a eu, notamment dans notre région, beaucoup de destructions au XVIIe, XVIIIe siècle, ou au XVIIIe siècle, on a oublié de reconstruire des destructions des siècles précédents. Et dans d'autres endroits, la croissance démographique a contraint à noircir un peu le tableau de l'Église, de la manière dont elle était conservée, afin d'en avoir une plus grande et plus belle. Les fidèles parfois s'opposent aux mesures officielles de dépouillement de l'Église, comme à Manosque, où les femmes refusent manifeste jusqu'à ce que la troupe intervienne. Le régime concordataire fait des prêtres des agents d'un service public des cultes avec la prestation d'un serment de fidélité. Un autre, entre 1791 et 1802, c'est 6 serments qui sont demandés aux prêtres successivement. Et ce serment de fidélité est prêté au gouvernement jusqu'à la fin du Second Empire. Le concordat, c'est un accord diplomatique entre le Saint-Siège et un État. Le Conseil d'État affirme cependant que les prêtres, tout en étant agents d'un service public, ne sont pas fonctionnaires, malgré une assimilation en bien des points. Ceux qui refusent la promesse et le concordat de 1801-1802 créent la petite église présente dans plusieurs régions, notamment dans le Champsaur, pour quelques familles. L'arrestation des habitants des Combettes est racontée par Ambroise Faure dans ses mémoires publiées par la Société d'études en 2009, je crois. Cette petite église dans les Hautes-Alpes est appelée à l'époque, les membres en sont appelés les Illuminés, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui les Patarons, réputés être totalement disparus lorsqu'on en parle ici. Et lorsqu'on parle des Patarons des Hautes-Alpes à Paris, on dit « Ah mais il en reste encore ». 200 personnes forment cette communauté au milieu du XIXe siècle et 2 ou 3 aujourd'hui encore se réuniraient donc dans une chapelle des Patarons. Comment connaissons-nous le nombre au milieu du XIXe siècle? Grâce à ce travail demandé par Mgr de Péry, une enquête paroissiale demandée à chacun des curés donc décrit sa paroisse. Il y a évidemment le nombre de protestants et le nombre de dissidents qui sont indiqués pour chacune des paroisses. Cette église non concordataire n'ayant plus de clergé à partir de la fin du XIXe siècle, l'animation spirituelle est assurée par des chefs de famille. Cette absence de clergé s'explique par la décision de ne pas ordonner, prise par les évêques qui ont participé au schisme. Le clergé s'est donc éteint, laissant la direction des communautés aux familles. Les confréries et congrégations sont nombreuses au même titre que les spiritualités au XIXe siècle. Rosaire, mère chrétienne, apostolat de la prière, propagation de la foi, y compris dans chacune des paroisses du diocèse de Gap, Sainte Enfance, œuvre d'Orient, on en a beaucoup parlé, créée en 1856. En 1882, à Paris, Mgr Dulst, alors recteur de l'Université catholique de Paris, encourage 2 jeunes filles à fonder l'œuvre des catéchistes volontaires, qui est transformée en archiconfrérie en 1893. Et en 1905, Pie X l'évoque pour en demander la création dans chaque paroisse dans une encyclique. L'époque voit également une forte poussée du mouvement en faveur des Sacrés-Cœurs, qui est né mouvement à la fin du XVIIe siècle avec Marguerite Marie Alacoque. Ce sont des confréries qui regroupent des laïcs dans les paroisses ou des congrégations religieuses. C'est le cas à Gap avec le Saint-Cœur de Marie. La mosaïque là-bas indique ces bâtiments à la fin du XIXe siècle. Nous sommes dans ces bâtiments ici. Elle est créée en 1833. C'est une congrégation enseignante et qui est doublée par des congrégations laïques dans chacune des paroisses, qui se réunit sous cette appellation du Très-Saint-Cœur de Marie, par exemple à Saint-André-les-Gapes, c'est-à-dire Saint-André-les-Cordeliers. Il existe dans les archives de la paroisse un dossier pour les années 1846 à 1869. nous trouverons un prolongement de cette dévotion après la Première Guerre mondiale. L'œuvre des bons livres, puisqu'il y a les bons et les mauvais livres, c'est connu, est un exemple de l'œuvre culturelle d'édification, d'encadrement social par l'Église dans les paroisses. Il s'agit à la fois de promouvoir par la création de bibliothèques paroissiales dont certains livres parviennent jusqu'à nous, les livres qu'un bon chrétien peut lire, et donc d'en exclure les ouvrages interdits. Dans ces bibliothèques, on trouve des livres de piété, de sanctification, d'hagiographie, c'est-à-dire l'histoire des saints. Nous sommes dans un 19e siècle où la lecture se développe, mais la lecture n'est pas universellement répandue, puisque l'école n'est pas encore obligatoire, l'enseignement n'est pas encore obligatoire. L'Église a donc participé au développement de la lecture publique, au prix évidemment d'une sélection drastique qui, d'emblée, écartait l'idée que l'esprit critique des paroissiens pouvait lui-même faire le tri. Dans les Hautes-Alpes, seules les grosses localités, Briançon, Gap, Embrun parmi elles, ont bénéficié de cette œuvre. Il faut signaler Guillestre parmi ces villes, ces localités. La bibliothèque paroissiale a fonctionné jusque dans les années 1980, jusqu'à la fin des années 1980. Elle est répertoriée comme telle et comme descendant de l'œuvre des bons livres par les pouvoirs publics. Au XIXe siècle, les œuvres missionnaires sont bien connues, d'abord par les prêtres. En effet, les abbés Michel, Sauvebois, Abonnel, je le disais tout à l'heure, sont mis en avant par leur dos qui rappelle à tous les lieux où ils résident. L'annuaire de 1886, alors j'ai pris 1886 un peu au hasard, nous permet de faire un tour de la mission et presque un tour du monde. Monseigneur Cordier est évêque au Cambodge. Marie Allard est sur la presqu'île de Malacca, en Malaisie aujourd'hui. Jean-François Robert et Cyril Escalier sont au Tonkin. Joseph Fouque et Émile Colombet sont au Siam. Avit Grimaud à Guangdong. Pierre Michel dans le Kuicheu en Chine. Jean-François Béraud dans le Sichuan méridional. Joseph Favre et Joseph Maigre en Birmanie. Jean-Irénée Faure en Mandchourie. Auguste Abonnel en Cochinchine. Cyprien Sauvebois au Cambodge. Et là, vous aurez un article dans l'Église dans les Hautes-Alpes d'octobre 2008 à son sujet. Et les annuaires ne citent pas tous les religieux, notamment ceux présents au Canada. L'Asie, là c'est un effet missions étrangères de Paris, est surreprésentée dans cette énumération. Le Comité pour la propagation de la foi est l'une des premières œuvres chronologiquement à être citée, et la première œuvre d'ailleurs à être citée dans l'annuaire diocésain. Il est présidé par le curé de la cathédrale de Gap. Dans chaque paroisse, l'évêque a rappelé durant ses visites épiscopales l'importance de la création de cette œuvre dans les années 1840-1850. C'est le résultat du travail de fourmi de Pauline Jaricot. Ces comités diocésains et paroissiaux sont pour beaucoup à l'origine des vocations missionnaires. Dès le début de l'œuvre de Pauline Jaricot, des publications popularisent les missions étrangères. C'est le cas de la revue « Les missions catholiques » qui est conservé à la bibliothèque diocésaine Monseigneur de Péry, et qui est le pendant d'une revue promue par la Société de géographie et favorable aux explorations coloniales, Le Tour du Monde. Je fais le pari que vous trouvez Le Tour du Monde au CAOM sans aucun problème, au Centre des Archives d'Outre-mer, enfin Centre National des Archives d'Outre-mer, mais également dans les archives du ministère des Affaires étrangères. Ces prêtres partis pour les missions ne viennent pas desservir des paroisses. Ce sont des prêtres qui ne sont pas ici en paroisse. Et il faut dire qu'une partie de celles qui sont créées dans le courant des années 1860 ne sont en réalité pas viables et sont parfois sans curé 10 ans après. Alors, on peut penser à la paroisse d'Escrin, par exemple. Autrement dit, pour une partie, les missions occupent des prêtres pour lesquels il n'y avait pas de ministère disponible dans le diocèse. On est à une époque de trop-plein en termes de vocation. Plus tard, dans les années 1880, les œuvres sont conçues comme un rempart à la laïcisation. C'est le développement de la catéchèse qui a lieu dans un local paroissial avec une pédagogie concrète et au cœur de son époque. Images, récits, lectures, chants, apprentissage de la liturgie, les œuvres de jeunesse, patronage, mouvement prolongent le catéchisme avec parfois l'aide de laïcs. Nous sommes un peu après le développement des éditions Ming, qui sont des éditions à bon marché, qui ont publié bien entendu, la patrologie, mais qui a publié également les grandes images du catéchisme de cette époque-là, avant la bonne presse, Bayard, appelée Bayard aujourd'hui. La pastorale des œuvres, à la fin du XIXe siècle, est particulièrement développée dans une paroisse grenobloise, une paroisse de la ville, Saint-Bruno. Elle couvre tous les besoins des paroissiens, tout en se voulant attractive pour ceux qui voulaient y entrer. Des confréries sont créées, des allocations familiales sont développées, les œuvres, plus que la liturgie, parviennent à susciter des paroisses communautaires. Le clergé se méfie parfois de ces laïcs qui s'organisent trop comme des contre-pouvoirs du curé. Nous l'évoquerons lors de notre prochaine séance. Cette action pastorale répond clairement à une demande romaine formulée par exemple sous la plume du pape Léon XIII à l'évêque de Coutances. Les prêtres doivent s'occuper des ouvriers, car l'évangile doit être annoncé aux pauvres. Ces abbés pour l'évangélisation du prolétariat, le mot date de 1832, s'appuient notamment sur la presse chrétienne, par exemple les Croix, le quotidien La Croix, qui a des déclinaisons locales, il en existe encore, comme celle des Hautes-Alpes, une collection, là encore, se trouve à la bibliothèque du diocèse. Il en existe 86 en 1885, dont 6 quotidiennes, 7 bi-hebdomadaires, mais elles ne touchent jamais plus de 5% de la population. Pie XI, lui, repris dans la France, pays de mission, nous le traiterons plus largement encore la prochaine fois, le 18 mai, a dit que le grand scandale de l'Église au XIXe siècle, ce n'est pas qu'elle ait perdu beaucoup d'ouvriers, c'est qu'elle a perdu la classe ouvrière. Et les auteurs de conclure en 1943, alors, ce grand scandale, ne pourrions-nous pas enfin travailler à le faire cesser? Alors, comment expliquer cette perte de la classe ouvrière à la fin du XIXe siècle par les paroisses? Et bien, au moment où les œuvres connaissent un fort développement, survient la laïcisation de l'école dans les années 1880. Du coup, les diocèses développent les réseaux d'écoles libres sous la surveillance des curés. Et c'est donc l'élan en direction des populations urbaines les plus éloignées de l'Église qui en pâtit. En outre, le clergé est majoritairement d'origine rurale. Il parle le vocabulaire et parfois même la langue de ce pays rural. Ce qui explique évidemment l'adhésion plus facile des ruraux au catéchisme organisé à l'extérieur de l'école publique. C'est aussi la cause de l'éloignement des ouvriers et l'une des raisons de la présence des laïcs dans ces œuvres, puisqu'ils peuvent probablement en exprimer plus facilement le contexte et les objets. Les prêtres sont également appelés à de l'érudition. Les conférences ecclésiastiques existaient avant la Révolution. Au XIXe siècle, ces conférences sont des cercles cantonaux. On reste dans le même champ, hein, circonférence, conférence, cercle, où les prêtres sont invités à travailler. L'érudition des prêtres est sollicitée à plusieurs titres sur des sujets qui peuvent parfois nous paraître dépassés ou farfelus. Prouver que l'Église est infaillible dans les lois générales qu'elle porte en matière de discipline et par conséquent infaillible aussi dans la canonisation des saints et dans l'approbation des ordres religieux. Autrement dit, on ne peut pas contester une canonisation puisque c'est l'Église qui la décide. C'est le sujet du dogme en 1854. Le corrigé suit évidemment dans une lettre pastorale au clergé. Toujours en dogme, mais 4 ans auparavant, il y a une question sur les églises protestantes. Sont-elles schismatiques, hérétiques, et la séparation au XVIe siècle est-elle légitimée par les erreurs et la corruption de l'église romaine? Schismatiques et hérétiques, évidemment, les églises protestantes le sont. Le corrigé admet certes de graves et nombreux abus dans le gouvernement de l'église à cette époque, et même une déplorable corruption de mœurs, qui régnait parmi les fidèles et le clergé. Mais la séparation est une destruction et donc rien ne légitimait la séparation des protestants d'avec l'Église romaine. Les conférences ecclésiastiques sont l'occasion pour les prêtres de rédiger des textes, de travailler des sujets de dogme, de morale, d'écriture sainte, au point que Mgr de Péry, en 1850, dans une adresse toute paternelle, pour reprendre les termes habituel, salue, je cite, la marche ascensionnelle de notre clergé vers une science plus étendue, plus approfondie et par là même mieux appropriée aux immenses besoins de notre époque. À ces conférences ecclésiastiques, il faut ajouter les examens destinés aux jeunes prêtres. En 1858, ces jeunes prêtres doivent plancher sur l'épître de saint Paul aux Romains, en écriture sainte. En dogme, c'est le traité sur l'Eucharistie. En morale, le traité du mariage, des états et des censures. Le sujet en histoire de l'Église est un développement depuis le grand schisme d'Occident jusqu'à nos jours, soit 8 siècles couverts en un devoir. En liturgie, il travaille sur l'administration des sacrements et enfin sur les constitutions synodales du diocèse. Monseigneur de Péry avait réuni un synode en 1857. C'était l'occasion de leur trouver un sujet. Ces examens des jeunes prêtres, comme les conférences ecclésiastiques, sont surveillés par un comité diocésain dont la composition est publiée dans l'ordo. Les livres de paroisse sont demandés par les évêques dans les années 1840. Le curé doit étudier l'histoire de sa paroisse et doit être le chroniqueur des événements contemporains. Ainsi, les volumes parvenus jusqu'à nous renseignent sur les époques passées. Le curé est donc historiographe, parfois même très bon historien. Il mêle l'érudition ecclésiologique à celle de la langue et de l'histoire. La connaissance sociologique, le mot est créé par Auguste Comte en 1830, est également présente. À Chaillol, le curé, l'abbé Claude Aymar, est suffisamment bon latiniste pour noter une erreur dans la transcription d'un texte sur Saint-Jules. L'arrivée du corps saint de Saint-Jules fait 30 pages dans le livre de paroisse de Chaillol, de Saint-Pierre de Chaillol. L'hymne latin à ce saint lui est d'ailleurs attribué par l'archéologue Jean Guyon, j'y reviendrai tout à l'heure. Dans le tome 1 de leur histoire religieuse de la France contemporaine, Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire écrivent cela. Autre terrain sur lequel le triomphe du courant ultramontain fut quasi absolu, celui de l'introduction dans les diocèses de la liturgie romaine. Le combat fut mené par Don Guéranger, abbé de Solesmes, qui décède en 1875 et qui publie beaucoup sur le sujet de la liturgie entre 1840 et 1865. En 1842, le pape Grégoire XVI était intervenu pour déplorer la variété des liturgies. Et en 1848, la bataille pour l'unité était virtuellement gagnée. La tenue des conciles provinciaux sous la Seconde République fut l'occasion que saisirent les ultramontains pour dénoncer les rites gallicans. En outre, des curés font pression sur les évêques pour l'unité des rites que Rome suscite pour mieux arrimer l'Église de France au siège apostolique. En 1844, Monseigneur de Péry lance une enquête sur les paroisses auprès de tous les curés. C'est l'un de ces volumes-là. Ce volume-là, il y en a 4 qui sont... Les 3 autres sont un petit peu plus gros que celui-ci. Les curés doivent notamment indiquer quel missel est présent dans l'Église et donc lequel ils utilisent. Sur un échantillon de 20 paroisses, j'ai pris 20 paroisses également réparties sur le territoire du diocèse, 14 de ces 20 paroisses ont au moins un missel romain en 1844. Alors il y a 3 missels à Presles, 4 à Saint-Irénée de Châteauroux, 7 à Embrun, mais Embrun c'est aussi le petit séminaire du diocèse. Il y a 9 paroisses sur 10 qui ont un missel dans les arrondissements d'Embrun et de Briançon. Le rite gapençais de 1764 dont nous avons parlé la dernière fois est toujours suivi à la Frécinouse. À Sorbier, c'est le rite parisien qui est utilisé. Un missel en mauvais état comme à Chaudun, à Pelletier, à Salérans par exemple, est signe d'un véritable usage et donc d'usure. Et donc d'un âge avancé, celui de Pelletier est peut-être un missel datant des années 1720. C'est aussi un signe parfois de la pauvreté de la paroisse. Le nord du diocèse apparaît plus riche, puisque dans l'arrondissement de Briançon, pour 6 paroisses, un tiers des missels sont en bon état, et la moitié en état médiocre et en nombre suffisant. Donc ça signifie évidemment qu'ils sont utilisés. L'unité liturgique est-elle un signe de richesse des communautés paroissiales? Première question, d'une dichotomie certaine entre nord et sud du diocèse. Deuxième question, il faudrait également s'intéresser à l'âge des prêtres pour chacune des paroisses pour mieux cerner cette question. Conséquence inattendue, cette unité liturgique entraîne la mise de côté des ouvrages gallicans, parisiens et de tous ceux que nous avons évoqués lors de notre séance précédente. Sous Napoléon III, le ministre de l'instruction publique et des cultes, Gustave Roulant, chargé de la culture, pour utiliser un terme actuel, considère que la perte de ces livres liturgiques serait très regrettable et suggère aux évêques d'en conserver des exemplaires dans les collections publiques pour de futures études. Le texte se trouve parmi les images projetées. L'ultramontanisme, c'est-à-dire la tendance à être plus en lien avec Rome que la tradition de l'Église de France, c'est aussi l'appel aux reliques venant des catacombes. Nous avons évoqué déjà le corps de Saint-Jules arrivant à Chaillol en 1863. Mais pourquoi ce corps est-il choisi ? Probablement parce que, provenant des catacombes, il avait auprès de lui un vase dont il est présumé, selon les données scientifiques considérées comme erronées à l'époque déjà, qu'il contenait le sang du martyr. À côté du corps, il y avait un vase. On dit qu'il y avait du sang à l'origine. À côté, c'est un signe du martyr. Jean Guyon, dans un article cité en bibliographie et qui est à paraître, affirme que la présence d'un tel vase ou d'une palme sur l'inscription d'une tombe était en effet les deux seuls éléments aptes à identifier les restes d'un martyr, selon le décret que la Congrégation romaine des indulgences et des saintes reliques avait promulgué le 10 avril 1668, deux siècles avant. Et en 1863, un décret reprenant à l'identique les termes de celui de 1668. Prise en un temps où les partisans de la validité du vase de sang étaient de plus en plus contraints à battre en retraite face aux arguments de leurs adversaires, la mesure était proprement réactionnaire, dit Jean Guyon. Le Saint-Siège finit donc par en prendre acte en décidant en 1881 l'arrêt de l'extraction des reliques des catacombes, mais ce n'est qu'en 1925 qu'il mit fin à la distribution de ces mêmes reliques. Nous pourrions mettre en parallèle l'histoire de Sainte-Philomène par rapport à Saint-Jules, quelques années auparavant, qui a marqué de nombreuses paroisses de France. Pensons au curé d'Ars, évidemment, mais pas que. On va penser à Montmort, ça va vous faire plaisir, père Fournier. Montmort, dans les Hautes-Alpes, il y a même un pèlerinage. Le corps de Sainte-Philomène est découvert le 25 mai 1802 dans la catacombe de Priscille. L'interprétation de l'inscription même l'identifiant est mise en cause dès le début du XXe siècle. Ce qui, bien entendu, ne signifie pas que Philomène n'a jamais été sainte et qu'il n'en existe pas une. C'est pas ce que je dis. À Montmort, la chapelle de Sept-Fonds, qui avait été église paroissiale probablement jusqu'au XVIe siècle, devient Sainte-Philomène quand, en 1838, Isabelle Reynaud est guérie par son intercession. Alors, il faut cependant relativiser ces dévotions, l'importance de ces dévotions pour les paroissiens. Pas parce qu'on va en pèlerinage qu'on va donner le prénom de Philomène ou de Roseline, autre personnalité sainte de, autour de Montmort, à tous les enfants du pays. L'analyse des 10 prénoms de garçons et de filles donnés en 1894-1895 à Montmort lors des baptêmes révèle des éléments un peu inattendus. Allez, un petit sondage sur 10 garçons, combien de Pierre, combien de Jean, combien de Jacques ? 10 garçons, combien de prénoms déjà ? Alors, sur 10 garçons, 10 prénoms, une variété inattendue, Camille, Adrien, Antoine, Auguste, évidemment, très régional hein, aussi, Albert, Joseph, Benjamin, Louis, Léon, Marius, là encore très régional. Jamais un Marius dans l'ouest de la France. Pour les filles, 10 prénoms. Combien de maris ? Pour les filles, ce sont 9 prénoms différents sur 10. Parce que ce sont des prénoms composés. Voilà, dont 6 maris, seuls ou composés. Il y a 2 Marie-Louise, une Marie-Mathilde, Marie-Jeanne, bien sûr, Marie-Denise, Joséphine, Elisa, Clémence. Autrement dit, pas une Philomène et pas une Roseline. J'ai fait un sondage pour cette étude sur le 19e siècle. Il faudrait voir l'évolution des prénoms sur plusieurs... peut-être que le cercle de généalogie... alors c'est l'association des généalogiques des Hautes-Alpes a fait ce travail-là, il faudrait vérifier. Ce serait intéressant et donc on verrait... Mais aujourd'hui, en effet... Il y a des Roselines, il y a de nombreuses Roselines dans le département, ça c'est sûr, mais ce n'est pas uniquement dans les Hautes-Alpes, et donc il faudrait voir quelle est l'influence de départ. Et puis, pour Philomène, il faudrait voir dans les années 1910-1920 comment le prénom a pu être ou non attribué. Le premier concile du Vatican, nous sommes là dans une période où l'Église est infaillible, elle l'est toujours, mais dont le rôle s'amoindrit en France, dans le rôle social, politique, s'amoindrit en France. Le premier concile du Vatican, 1870, a peu de répercussions dans les paroisses, notamment en raison des événements nationaux, la défaite, la chute de l'Empire, la perte des départements alsaciens et de la Moselle, évidemment, l'emporte dans la perception de cette année-là par les uns et les autres. Il est cependant le sommet de l'ultramontanisme traduit par l'infaillibilité du pontife de Rome quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles et chargé de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte définitif un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. C'est la définition de l'infaillibilité du pontife romain dans Lumen Gentium, chapitre 3, 25, la fonction d'enseignement des fidèles, donc un texte du Concile Vatican II qui confirme le Vatican I. En France, l'ultramontanisme trouve son aboutissement dans les années 1850-1880, particulièrement dans certaines chrétientés, tout particulièrement dans l'ouest de la France. À la Rabatelière, petite commune vendéenne de 700 habitants, le curé, l'abbé Hilleré, fait édifier une reproduction du sanctuaire de la Salette avec un pèlerinage annuel en septembre qui perdure toujours. La croix qui surmonte l'édifice principal a fait le pèlerinage de Jérusalem, pas de Rome, et en est revenu par le train pour venir de la gare de l'Herbergement jusqu'à la Rabatelière, soit 12 km. Elle a été portée par les hommes de la paroisse. En 12 km, mais c'est du plat. La Vendée, c'est plat. De même, en 1873, la Flosselière, 20 km de la Rabatelière, l'évêque de Luçon consacre la Santa Casa, reproduction de Notre-Dame de Lorette. C'est l'aboutissement d'un travail entamé par la reconstruction de l'église paroissiale sous le ministère de l'abbé Joseph d'Alain, curé dès 1861. Donc c'est un chantier qui n'aura duré que 12 ans. Cette église a été classée à l'inventaire des monuments historiques en 1997. J'ajoute sur cette période de l'infaillibilité de l'ultramontanisme qu'après Vatican I, les prêtres du diocèse ont été invités par l'évêque à écrire à sa sainteté le pape pour le féliciter des décisions prises au cours du concile. La période est également celle d'une laïcité d'État affirmée, ce qui évidemment n'engage pas toujours les pratiques personnelles. Dans le tome 2 de l'ouvrage de Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, que j'ai déjà cité, dont vous trouvez les références dans la bibliographie, nous trouvons cette mise en relation entre l'école et le développement des trains. J'ai déjà parlé du train tout à l'heure. Ce symbole de la modernité, disent Cholvy et Hilaire, conjugué avec la loi de 1889 qui généralise le service militaire et fait reculer la France des terroirs et progresser la prise de conscience que l'homme acquiert de maîtrise sur le monde. L'un des éléments de l'optimisme rationaliste que l'école laïque va faire descendre dans les profondeurs du pays. Les programmes républicains de 1869, les programmes électoraux républicains de 1869 et 1876 veulent enlever au culte leurs moyens d'action tout en gardant le contrôle offert par le concordat. Autrement dit, les tenants de la laïcité utilisent comme argument le fait qu'une partie de l'Église est conservatrice pour empêcher l'ensemble de l'Église de développer de nouveaux moyens d'action pastorale. Nous sommes à la veille du développement de l'action catholique. La première action catholique. Toujours chez Cholvy et Hilaire, reprenant René Raymond pour la fin du XIXe siècle, la régression de l'anticléricalisme va de pair avec le progrès de la déchristianisation. Cette politique s'accompagne de manifestations individuelles d'hostilité, destruction de croix, tabernacle brisé, hosties dispersées. Vers 1885, ces manifestations, ces attaques peuvent prendre un caractère collectif, mais elles ne sont jamais revendiquées. À cette époque, dans les années 1880, se développent les obsèques civiles, si bien que le nombre de baptêmes est supérieur à celui des funérailles chrétiennes. À Lyon, en 1892, 14% des obsèques sont civiles, 26% en 1907, un quart. Dans Lyon, en 1912, 9% de non-baptisés, 22% de mariages civils, qui ne passent pas ensuite par l'Église, 17% de funérailles civiles. Pour mémoire, en 2007, dans le diocèse de Gap, et donc les Hautes-Alpes, 859 funérailles chrétiennes, soit 72% des sépultures, 1253 en tout. alors qu'il y a 418 baptêmes, pour 1448 naissances, soit 29%. Je tire cela de l'état des lieux du diocèse, publié en 2011 par le diocèse sous la signature de Mgr Di Falco. Qu'est-ce qu'un baptême civil ? Nous allons laisser le chanoine Paul Guillaume s'exprimer dans son poème à l'abbé Frédéric Massot. C'est l'une des images illustrées par le chanoine Paul Guillaume, qui en plus de savoir écrire, savait dessiner. Et il est écrit « L'enfant est frêle, il faut qu'on le baptise. Et ce fut fait le 14 d'avril. Ne pense pas qu'on le mène à l'église, il ne reçoit qu'un baptême civil. Pauvre parrain, triste cérémonie. Malgré l'encens, l'eau bénite de cour, un mauvais sort, une fée, un génie, un diable vert la poursuit nuit et jour, car ce marmot se trouve être une fille qu'avec le temps on pourra courtiser. Elle est de race et de noble famille. Il eût fallu d'abord l'exorciser, chasser le diable et toute la séquelle. La laïcisation des écoles, des hôpitaux, des hospices apparaît comme importante, mais elle est freinée par les intentions des donateurs ou les problèmes de personnel. La défaite de 1870-71 joue un rôle important dans cette histoire de laïcisation. Dans la guerre, la victoire, celle de l'ennemi, et celle du maître d'école prussien, ayant formé des hommes instruits et disciplinés, entraînés à la gymnastique, sachant lire les cartes, utilisant les techniques modernes. C'est donc la victoire sur la ou le congréganiste, enseignant, ayant comme seul diplôme la lettre d'obédience de l'évêque ou du supérieur pour 4 sur 5. La prochaine vue est celle de l'abbé Paul Guillaume. On va la commenter brièvement. Donc il y a le dessin de ce baptême civil. Et donc on a le texte ici. C'est un manuscrit qui est conservé aux archives diocésaines. Il a été remis par le père Bruno Belmont aux archives diocésaines quand il a quitté la paroisse de Laragne. C'était quelque chose qui était dans une famille de Laragne. Il s'est signé PG, c'est Paul Guillaume, c'est son écriture, il n'y a là aucun doute. En 1852, revenons à l'école, donc en 1852, l'abbé Joseph Provençal est principal du collège de Briançon, il a 26 ans. Chaffret, lui, Martin, est aumônier et professeur de philosophie au collège de Gap. Il est spécialisé en rhétorique, auteur de nombreux ouvrages rédigés durant son temps libre. Je vous renvoie pour Chaffret-Martin à l'article de Jean-Gérard Lapacherie dans le bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes en 2013. Toujours en 1852, l'enseignement catholique compte un pensionnat et une école communale à Gap, tenue par les frères des écoles chrétiennes, ainsi que l'école des filles du Saint-Cœur de Marie, située ici. Les sœurs de Saint-Joseph ont une école et un pensionnat à Gap, alors que les religieuses de la Providence tiennent combien d'écoles, les religieuses de la Providence, au milieu du XIXe siècle ? 80. Les trinitaires ont une école à Briançon et à Embrun. Les religieuses de Sainte-Marthe ont des pensionnats et des écoles à Guillestre, à Vennes, à Aspres-les-Vennes. Soit au moins 88 établissements scolaires tenus par l'Église dans le département. Entre 1880 et 1906, La politique de laïcisation touche les congrégations non autorisées. Ce sont des congrégations qui se sont créées et qui n'ont pas demandé d'autorisation. Il n'y avait pas la loi de 1901 sur les associations, puisque celle-ci a même été créée pour ou contre, comme vous le voudrez, pour les associations. Les jésuites sont expulsés en 1880 et des communautés sont dispersées la même année. Les congrégations enseignantes sont contraintes de quitter leurs écoles et de s'exiler à partir de 1901 et de l'application de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. C'est le cas ici des religieuses du Saint-Cœur qui sont allées tenir leur pensionnat à Suse, suivies de leurs élèves bien entendu. Entre-temps, les années 1880-1882 ont vu la création d'un service public d'éducation laïque. Cela n'empêche pas certains maîtres d'accompagner les élèves de leur classe à la messe du dimanche dans la paroisse et à des crucifix de rester accrochés au mur. Juste oublié de l'enlever. Dès 1881, tous les enseignants doivent avoir le brevet de capacité. En 1884, il est interdit aux instituteurs et institutrices publiques d'exercer un autre emploi, même à titre gratuit, hormis le secrétariat de la mairie. 50 ans avant, en 1833 précisément, au Brousil, paroisse de Vendée, du diocèse de Luçon, le curé demandait au maire que l'instituteur soit également nommé chantre à l'église, car, disait-il, je ne vois pas comment nous pourrions nous en tirer facilement dans une hypothèse différente. Quand il s'agit de s'en tirer, c'est évidemment s'en tirer financièrement. C'est la question financière qui est en jeu. Le salaire, la rétribution scolaire n'est pas suffisante pour nourrir l'instituteur. Il faut qu'il fasse autre chose. Et donc, chantre à l'église, ça lui allait très bien en 1833. En 1880, ça lui est interdit. Et donc, il doit devenir secrétaire de la mairie. L'interdiction de 1884 n'est évidemment pas partout et immédiatement appliquée par des instituteurs qui n'ont pas voulu tous changer d'habitude. La séquence 1904-1906 est particulièrement tendue, à la fois sur le plan diplomatique et dans les paroisses avec les inventaires en 1906. À cette époque-là, les crucifix présents dans les mairies sont enlevés. Alors là, uniformément, partout. Certains sont réinstallés sous le gouvernement de Vichy, notamment dans l'ouest de la France. Durant les années 1990-2000, ils feront l'objet de polémiques en Vendée et en Loire-Atlantique, souvent suscitées par le mouvement de la libre pensée. Le principe est le suivant. Donc, en 1906, les crucifix ont été enlevés. Les préfets ont veillé à l'application de la loi. Et sous Vichy, après, le gouvernement a autorisé le retour des crucifix dans les mairies. Donc, il y a eu, quand il y avait des journaux paroissiaux, des bulletins paroissiaux, on a les comptes rendus de ces processions qui conduisaient de l'église jusqu'à la mairie, de longues processions d'au moins 50 mètres. Hein. Que la mairie est évidemment à côté de l'église, où le crucifix, enlevé en 1906 et qui rappelait dans l'ouest de la France la manière dont l'église avait pu être chassée en 1793, le crucifix est réinstallé dans la salle des mariages, le plus souvent, de la mairie. Et du coup, aucune loi n'a contraint de l'enlever. Sauf que la loi de 1905-1906 n'a jamais disparu. Et donc, elle aurait dû être appliquée de nouveau. Et donc, le mouvement de la libre pensée s'est saisi de cette question dans les années 1990 et 2000 pour les faire enlever dans un certain nombre d'articles dans Ouest-France ou dans Presse Océan. Et donc, le maire était contraint, en règle générale, d'enlever le crucifix. La période 1905-1906 est aussi la création du denier du culte que nous connaissons désormais sous le terme de denier de l'Église, et également, non pas de la création, mais de la rénovation du Liber Statutus Animarum. Comment cela est-il vécu à Saint-Étienne d'Avençon? Par suite de la suppression du budget des cultes, Monseigneur a établi dans le diocèse l'œuvre du denier du culte. Les habitants de Saint-Étienne d'Avençon ont compris la nécessité de cette œuvre. Elle permet en effet de rétribuer les prêtres et de faire fonctionner le diocèse. Le développement du denier s'accompagne de celui du Liber Statutus Animarum. C'est un fichier particulièrement complet, vous allez le voir, que les curés ont pour mission de tenir à jour. Ce n'est pas une nouveauté, comme nous le voyons avec celui de la paroisse Sainte-Marthe, ici, du diocèse de Marseille. Mais il se généralise en ce début du XXe siècle. Le curé doit connaître l'état de sa paroisse pour pouvoir mieux la solliciter financièrement. Donc, on sait tout individuellement ce que fait ou ne fait pas la famille et les membres de la famille. S'ils viennent à l'église, si les enfants sont au catéchisme. Donc, ça permet derrière de solliciter les bonnes familles, évidemment. Le début, la fin de notre siècle, de ce long XIXe siècle, s'achève avec la Première Guerre mondiale. Le tome 2 de l'histoire religieuse de la France contemporaine parle ainsi de l'Église au début du XXe siècle. Les catholiques, dominés par des chefs monarchistes ou conservateurs, vaincus aux élections, notamment les législatives, étaient devenus des exilés de l'intérieur, construisant une contre-société avec ses paroisses, ses écoles, ses œuvres, sa presse. C'est-à-dire que le succès des œuvres, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Saint-Bruno à Grenoble, en venait à construire une société à part, des chrétientés isolées. Or, si le courant nataliste et patriote, pensons à l'ouvrage de Zola, pas le plus connu, Fécondité, en 1899, la composante catholique qui occupe une place grandissante dans cette vague nataliste. En 1903, l'abbé Violet crée la première association familiale. En 1911, Jean Guiraud préside l'Union des associations catholiques des chefs de famille. En 1914, Paul Bureau crée la Ligue pour la vie. Alors, la guerre, la grande guerre qui éclate, n'est pas la Première Guerre mondiale. Parce que ce nom de Première Guerre mondiale implique qu'il existe un nouveau conflit. Donc quand elle éclate en 1914, c'est la Grande Guerre. C'est la guerre européenne éventuellement, mais pas la Première Guerre mondiale. En outre, tous les soldats partis à la guerre ne sont pas des poilus. Ne sont des poilus que ceux qui ont pu sortir des tranchées vivants et non rasés. Autrement dit, ceux qui en sont revenus. La plupart des relations écrites et a fortiori orales sont de ces soldats qui sont revenus. Et vous comprenez évidemment le côté partiel de ces récits par rapport à l'ensemble du conflit et des soldats qui sont morts. En août 1914, ceux qui sont morts sur les plages du nord de la France ou de Belgique ne laissent aucun témoignage. Sur la Grande Guerre, je vous renvoie au dossier publié par Église dans les Hautes-Alpes en novembre 2014 et que j'ai eu l'honneur de coordonner avec Thierry Paillard. Ce numéro est disponible sur Internet. Après la mobilisation par les naissances évoquée tout à l'heure, la mobilisation par l'armée, elle arrive dans un second temps. Dès 1889, les séminaristes doivent effectuer le service militaire dont ils étaient exempts. Jean-Marie Guyon, dans l'introduction qu'il a donnée au guide des sources évoqué tout à l'heure, écrit que le monde catholique participe comme les autres à la mobilisation de la société dans une guerre devenue totale et comme eux, il s'y engage jusque dans ses aspects les plus outranciers et les plus éloignés de notre intelligence du monde. Le moment 14-18 est d'autant plus important pour le monde catholique qu'après la période de Discorda et les fractures suscitées par les débats autour de la séparation de l'Église et de l'État, l'union patriotique permet de ressouder la société. Et donc, parmi tous ces aspects de la mobilisation nationale, la victoire ne fait aucun doute. Seulement, il faut la hâter par nos prières et nos supplications, selon le mémoire de Rodrigue Rambaud cité en bibliographie. Méritons-nous la paix ou la guerre? Cette question est évoquée par les religieuses de la Providence de Gap à l'époque dans leur chronique. Celles qui sont à Gap, hein, qui étaient restées malgré 1901 et 1905-1906. Les Allemands ont réduit en cendres les plus beaux monuments de Louvain, ville artistique de Belgique, et brûlé sa célèbre bibliothèque, dit la chronique des religieuses de la Providence. Enfin, après la terrible bataille de Charleroi, dans laquelle, malgré des prodiges de valeur, les troupes alliées ont été vaincues, la horde allemande, je cite toujours bien entendu, a fait irruption en France. La France coupable mérite sans doute ce châtiment. Comme nation, elle a non seulement abandonné Dieu, mais lui a fait une guerre acharnée. Suppression de l'enseignement chrétien et des symboles religieux, dissolution des congrégations religieuses et spoliation de leurs biens. Mais il y a encore la France catholique qui prie, supplie le dimanche, donc dans les paroisses. De touchantes cérémonies ont lieu dans beaucoup d'églises. Ah ! Si le gouvernement voulait reconnaître la main divine dans le fléau qui s'abat sur nous, la France serait bientôt sauvée. Autrement dit, la guerre est voulue par Dieu. C'est ce qui est écrit. Hein. Si le gouvernement voulait bien reconnaître la main divine dans le fléau qui s'abat sur nous. L'action pastorale porte ses fruits quand les soldats membres de la jeunesse catholique se rassemblent en mouvement au front. Elle se poursuit quand les curés, comme au Brousil, entretiennent une correspondance avec la plupart des poilus partis au front. Les vicaires dans le diocèse de Luçon s'occupent du bulletin paroissial, qui est un lien entre la paroisse et les soldats. Un bulletin semblable était publié par le curé de Saint-Émilion, diocèse de Bordeaux. La guerre dans les paroisses marque souvent les débuts d'un bulletin paroissial, dont la postérité le conduira tout au long du XXe siècle, et même au XXIe siècle, sous diverses formes. La Première Guerre mondiale est aussi une période de mobilisation des plus jeunes, avec l'organisation de la prière des enfants pour la victoire finale, étudiée par Stéphane Audouin-Rouzeau. Rodrigue Rambaud le constate au Brésil, où le sergent René Douillard demandait à sa fille de prier pour tous les soldats. De même, les soldats préparent leurs proches, notamment leurs enfants, à leur décès éventuel dans les tranchées. Alors, l'histoire du clergé paroissial au XIXe siècle est celle d'hommes qui n'ont pas la maîtrise de l'institution. Ils sont contraints par le concordat de 1801, qui est un accord diplomatique. Il y a donc deux parties, l'Église représentée par le Saint-Siège et l'État. Ils sont contraints donc d'être des agents publics, souvent mal aimés dès la fin du Second Empire, puis rejetés par l'État. Ils subissent les conséquences financières et pastorales de la laïcisation, qui était inéluctable et que pourtant ils n'ont pas toujours su percevoir.